Studio Damani, voici nos informations en français.
Et c'est avec Mariam Maïga à la présentation. La menace de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas adressée qu'au gouvernement du Mali. La déclaration est du représentant du chef du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Selon Mohamed Saleh Anadif, le régime de sanctions du Conseil de sécurité vise à accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Le chef de file de l'opposition appelle les Maliens à réaliser l'alternance en 2018 pour sauver le pays. Soumy Lassissé demande aussi au gouvernement de réunir les conditions d'une élection libre et indépendante. Un accident de la circulation a fait 2 morts et 10 blessés hier à Konobougou dans la région de Ségou. Selon des sources locales, le drame aurait été provoqué par un excès de vitesse. Monsieur Dame, bonjour et bienvenue. Les Nations Unies ont menacé la semaine dernière de sanctionner le Mali faute de progrès dans la mise en œuvre de l'accord. Le ministre malien des Affaires étrangères a dit son étonnement face à cette annonce du Conseil de sécurité. Mais pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, cette menace concerne toutes les parties signataires. Selon Mohamed Saleh Anadif, ce régime de sanctions demandé par le gouvernement du Mali vise à accélérer la mise en œuvre de l'accord.
Le texte prévoit la possibilité d'interdiction de voyage et de gel d'avoir. L'adoption de cette résolution sera suivie de la création à l'ONU d'un comité de sanctions qui aura pour mission d'identifier les individus ou entités contrevenant à ces dispositions. Pour Mohamed Saleh Anadif, c'est une manière pour le Conseil de sécurité de mettre la pression sur les partis signataires à quelques mois des élections. Toutefois, il précise que la sanction ne vise pas que le gouvernement du Mali.
Aujourd'hui, la sanction ne vise pas seulement le gouvernement. Il attire leur attention sur le fait que nous sommes en une année électorale, nous sommes à la veille des élections, il faut faire un certain nombre de pas significatifs pour que nous puissions aller vers les élections dans un climat apaisé, c'est-à-dire qu'une invite pour dire nous sommes impatients, faites quelque chose, sinon votre demande, à savoir la résolution 2374 qui prévoit un certain nombre de sanctions, rien n'empêche qu'elle pourra être mise en œuvre. C'est aussi simple que cela.
Pour le ministre malien des Affaires étrangères, le gouvernement du Mali a montré sa bonne foi en fixant les critères et en proposant un quota. Il estime que c'est aux autres partis de jouer leur partition, notamment en fournissant les listes de leurs combattants.
C'est le Mali qui a demandé un régime de sanctions contre ceux qui empêchent la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement du Mali, pour sa part, a fait montre de toute la bonne foi possible en donnant les quotas qu'il lui était possible de prendre en charge dans ce processus-là et en fixant les critères. Et il est attendu de l'autre partie que le cantonnement commence, notamment en fournissant la liste des combattants.
Il faut noter que des pays comme la Russie et l'Éthiopie ont fait des réserves sur l'opportunité de ce régime de sanctions. La France, rédactrice du document, a rassuré qu'à ce stade, il n'est question que de créer un régime général de sanctions. Selon elle, l'identification des contrevenants interviendra ultérieurement.
Faites un tour sur la page Facebook, le compte Twitter du Studio Tamani, pour y réagir à toutes ces informations. L'Église catholique après la diffusion d'une vidéo de Gloria Cecilia Navez Argoti. Pour les responsables de l'Église, cette vidéo est une preuve de vie de la sœur colombienne. Ils affirment avoir pris note de l'appel de la religieuse à l'endroit du pape et espèrent une libération très prochaine. Jean-Baptiste Chaman, évêque du diocèse de Sikasso, est joint au téléphone par Aliou Sidibé.
Nous, c'est d'abord une certaine joie que nous éprouvons du fait de savoir la sœur est toujours en vie et en bonne santé. Cela nous réjouit beaucoup. Et cela nous pousse à intensifier nos prières pour que cette envie, ce désir profond qui habite la sœur soit vraiment une réalité. Nous savons que depuis sa disparition, nous sommes mobilisés pour la porter dans nos préoccupations, dans nos prières. Régulièrement, des chapelets se font, régulièrement, des messes se célèbrent afin que le Seigneur puisse convertir et changer le cœur des ravisseurs pour que nous puissions avoir la sœur pour le retour. Ces prières se font aussi à l'adresse de tous ceux qui vivent des cas similaires à travers le monde. Et déjà, nous rendons grâce au Seigneur et nous lui demandons de continuer à nous écouter pour que nos prières soient exaucées. Bon, nous pensons que cette vidéo est récente parce que la sœur parle du voyage du pape en Chili, or cela s'est passé, si je peux dire, dans ce mois. Et elle demande l'intervention quotidien du pape et puis de sa communauté, de sa congrégation, de sa famille. Cela est tout à fait normal. Je crois que c'est son point de référence ultime. Alors, je pense que le Vatican a entendu et aussi suivre la chose de près.
Autre titre de l'actualité du jour, dans une interview accordée à RFI, le président du Haut Conseil islamique Mahmoud Diko s'est dit inquiet de la situation sécuritaire dans le centre du pays. L'imam Diko s'est dit favorable à une discussion avec les djihadistes. À propos de la gouvernance actuelle, il demande au président la création d'un espace de dialogue entre toutes les forces vives du pays. Certains observateurs pensent que les religieux ont pris beaucoup trop de place dans l'arène politique. Cela explique-t-il à cause du discrédit et de la faiblesse de la classe politique. Issa Ndiaye est universitaire. Il est joint au téléphone par Omar Waigalo.
Le discrédit et l'affaiblissement de la classe politique, la montée en puissance du pouvoir religieux. Donc de plus en plus, les religieux, ayant pris conscience de leur poids, de leur influence donc sur la société, ont décidé en quelque sorte de mettre le pied sur l'accélérateur. Et la démonstration a été faite lors de l'opposition donc au fameux code de la famille qui a dû reculer. Depuis lors, on voit une montée en puissance du pouvoir religieux, mais il faut dire que malgré donc cette situation, le pouvoir religieux a quand même réussi à négocier son entrée dans le gouvernement par la création des ministères du culte. Je pense que tout le problème vient de là. Dans une république qui se dit laïque, ce n'est pas normal donc de créer un ministère chargé du culte. Mais la faiblesse de la classe politique était telle que la classe politique a pensé utiliser le pouvoir religieux et cet instrument-là a fini par se retourner contre lui. Donc de plus en plus, les religieux sont devenus assez important sur la scène politique.
Le chef de file de l'opposition était face à la presse hier à Bamako. Cette rencontre du président de l'URD s'inscrit dans le cadre de la traditionnelle présentation de vœux aux médias. Soumila Sissi a passé en revue les sujets brûlants de l'actualité et a dénoncé les récentes répressions contre les journalistes et manifestants à Bamako. Pour le chef de file de l'opposition, 2018 doit consacrer l'alternance au Mali et le gouvernement doit réunir les conditions d'une élection libre et indépendante au Mali. Soumila Sissi, chef de file de l'opposition au micro de Fatih Yattara.
La mystification du président sortant, qui parle beaucoup, mais qui ne fait rien pour son peuple, n'est pas à la hauteur des enjeux. Les Maliens ont été dupés. Pour sauver le Mali, il faut organiser des élections libres et transparentes. Pour en finir avec la crise, le président sortant doit sortir. C'est de la responsabilité de tous ceux qui portent et incarnent l'alternative crédible et démocratique. En tant que chef de file de l'opposition, je ne me déroberai pas à mes responsabilités. Tous les acteurs qui interviennent dans la résolution de la crise du Mali sont unanimes à constater que l'application de l'accord d'Alger piétine dangereusement, faute d'impulsion et de volonté du pouvoir qui n'a jamais voulu engager un dialogue sérieux entre les différentes composantes de la nation malienne.
2 morts, 10 blessés, dont 4 cas graves. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier vers 8h à Konobougou dans la région de Sigou. Un car en provenance de Bamako s'est renversé en un virage à l'entrée de la localité. Selon des sources locales, l'excès de vitesse serait la cause de l'accident.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité régionale. Quelques jours après l'attaque terroriste du camp militaire de Youarou dans la région de Mopti, une section militaire de Ségou et de la force spéciale de Sofara sont arrivés ce dimanche dans la ville. Ce redéploiement intervient alors que la piscose règne au sein de la population. Selon des sources locales, plusieurs fonctionnaires ont quitté la ville. L'attaque du camp de Youarou a fait 2 soldats maliens tués et 7 assaillants neutralisés. Une pirogue transportant des forains a chaviré lundi à Bamba, dans la région de Gao. Le bilan est d'une femme disparue et de matériel emporté. Le drame est survenu vers 11h du matin. Une opération de recherche a été engagée par les pêcheurs de la localité afin de retrouver le corps de la victime. À Yoroso, la conférence annuelle du district de l'église chrétienne protestante a pris fin lundi. Plus de 1000 jeunes venus d'une 30aine de villages ont pris part à cette édition. Le thème retenu cette année était discernement de la voix de Dieu à celle des autres. Des chants, des louanges et des prières ont marqué les festivités. Cette conférence annuelle a duré 4 jours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Nouhoum Djiré est à la technique. Ne décrochez pas car l'info continue. C'est